zisa Domnul pilda aceasta, asemănatu-s-a împărăția cerurilor unui împărat care a făcut nuntă fiului său și a trimis pe slujitorii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Iarăși a mai trimis alți slujitori zicând, spuneți celor poftiți că iată am pregătit ospățul meu. Juncii mei și cele îngrășate ale mele s-au jertfit și toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țarina sa, altul la neguțătoria sa, iar ceilalți, punând mâna pe slujitorii lui, i-au batjocorit și i-au omorât. Auzind de aceasta, împăratul s-a mâniat și trimițând oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și orașului lor i-a dat foc. Apoi a zis slujitorilor săi, iată, nunta este gata, dar ce poftiți n-au fost vrednici. Deci mergeți la răspândile drumurilor și pe câți veți găsi chemații la nuntă. Atunci slujitorii au ieșit la răspândile drumurilor și au adunat pe toți câți i-au găsit, și buni și răi, și s-au umplut casa nunții de oaspeți. Iar împăratul, intrând să vadă pe oaspeți, a văzut acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haine de nuntă și a zis, prietene, cum ai intrat aici fără haine de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis către slujitorii, legați-l de mâini și de picioare, luați-l și aruncați-l în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și strâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțin aleși. În Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu citire, în vremea aceea a auzit Irod împăratul vestea despre Iisus, căci numele lui Iisus ajunsese cunoscut și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea puterile lucrează în el. Alții însă ziceau că este Ilie, iar alții ziceau că este proroc, ca unul din proroci. Dar auzind Irod a zis, acesta este Ioan, căruia eu am pus să-i se taie capul. El s-a sculat din morți, căci Irod trimițând prinsese pe Ioan și-l legase în temniță, din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soție. Însă Ioan îi zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ai de nevastă pe femeia fratelui tău. De aceea Irodiada îl pismuia și vroia să-l omoare, dar nu putea, pentru că Irod se temea de Ioan, știindu-l om drept și sfânt și locrotean. Și când îl asculta, sta multe gânduri și era bucuros să-l asculte. Dar s-a evit o zi cu bun prilej, când Irod de ziua sa de naștere făcea ospăți dregătorilor și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galileea. Atunci fata Irodiadei, intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor care ședeau cu el la ospăță. Iar împăratul a zis fetei, cere de la mine orice voiești și-ți voi da. Și s-a jurat fetei zicând, orice vei cere de la mine voi da ție până la jumătate din împărăția mea. Iar ea ieșind a întrebat pe mama sa ce să cere. Iar Irodiada a zis capul lui Ioan Botezătorul. Atunci îndată a intrat grăbită la împărat și a cerut zicând, vreau să-mi dai numai decât pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și împăratul s-a întristat adânc, dar din pricina jurământului și din pricina celor care ședeau împreună cu el la ospăți, n-a vrut să-i nesocotească cererea. Și trimițând îndată pe paznicul temniței, împăratul a poruncit să aducă capul lui Ioan, iar acela mergând i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Când au aflat ucenicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Iar apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus toate câte au făcut și câte au învățat pe oameni. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités à la noce, mais ils ne voulurent pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec mission de dire aux invités, « Voyez, j'ai préparé mon festin. On a tué mes bœufs et mes bêtes grasses. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais ils ne tinrent pas compte de cette invitation, ne s'en allèrent. Qui a son champ, qui a son commerce? Et les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Quand il apprit cela, le roi fut irrité et envoya ses troupes qui firent périr les meurtrières et incendièrent leur cité. Alors il dit à ses serviteurs, « Le festin est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. » Les serviteurs s'en allèrent par le chemin, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives et il aperçut un homme qui ne portait pas l'habit nuptial. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit nuptial ?» L'homme resta muet. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu nombreux sont les élus. » Lecture du Saint-Évangile selon Saint-Marc. En ce temple-là, le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom devenait célèbre et l'on disait, « Jean le Baptiste est ressuscité des morts, d'où les miracles qui s'opèrent par lui. » D'autres disaient, « C'est Élie. » D'autres encore, « C'est un prophète comme ceux de jadis. » Hérode entendait ces propos et disait lui-même, « C'est Jean que j'ai fait décapiter, le voilà ressuscité des morts. » Car c'était lui, Hérode, qui avait envoyé ses hommes s'emparer de Jean et l'avait fait mettre en prison à cause d'Hérodiade, femme de son frère Philippe, parce qu'il l'avait épousé et que Jean disait à Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Hérodiade lui en voulait et cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait pas, car Hérode craignait Jean, le sachant un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'entendait, il en faisait grand cas, et c'est avec plaisir qu'il l'écoutait. Mais il se présenta une occasion favorable lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet aux grandes de sa cour, à ses officières et aux notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives, au point que le roi dit à jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il lui fit même ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » La fille sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander ?» Hérodiade répondit, la tête de Jean le Baptiste. Aussitôt, il s'empressa de rentrer auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contristé, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refuse. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. La garde s'en alla et le décapita dans la prison. Puis il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent reprendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et l'informèrent de tout ce qu'ils avaient fait. Et de tout ce qu'ils avaient enseigné.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Même si on a eu une lecture de l'Évangile un peu plus longue, comme d'habitude, parce que je crois que vous savez qu'aujourd'hui il y a aussi une fête, c'est la fête de Saint-Jean le Baptiste, plus exactement la décollation de Saint Jean le Baptiste quand il a été tué par le roi Hérode. Voilà, donc on a lu l'évangile qui présente cette histoire quand Saint Jean le Baptiste a été décapité à cause de ce roi qui aimait la femme de son frère. Et voilà que Saint Jean le Baptiste, il a lutté pour montrer que voilà, c'est pas une chose tout à fait correcte qu'est-ce qu'il faisait ce roi. On a lu aujourd'hui aussi l'évangile qui nous présente une petite parabole. C'est quoi une parabole? C'est une petite histoire, si vous voulez, même très semblable avec un conte de fées, qui présente d'une manière symbolique une situation qui existe de fait. Et cette parabole qui a été dite par Jésus à ses apôtres fait un approchement entre le royaume de Dieu, c'est quoi le royaume de Dieu? Et il présente un petit symbole. Voilà, le royaume de Dieu est semblable avec un roi qui voulait inviter aux noces de son fils beaucoup de monde. Et voilà que les invités ne sont pas venus. Et quand il a vu que les invités ne sont pas venus, voilà, il a envoyé ses serviteurs pour inviter tout le monde qui sont dans tous les carrefours des rues, les bons et ceux qui ne sont pas des bons. Voilà, c'est un évangile que j'aime beaucoup et qui parle beaucoup de la situation qu'on a. Je sais, peut-être que je répète ça, mais c'est très important d'être conscient. On est appelés tous aux noces du Seigneur. Dirons que nous les chrétiens, on est peut-être privilégiés d'une certaine manière dans cette invitation. Mais je crains qu'on ne réponde pas toujours à l'invitation du Seigneur. Pourquoi? Parce que tout d'abord, je crois qu'on est un peu égoïste et on n'envisage pas que peut-être on peut avoir des autres gens qui peuvent accéder au royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut demander à Dieu qu'il sauve seulement les chrétiens? On ne peut pas demander ça. Dieu fait qu'est-ce qu'il veut avec son peuple, avec ses fils, avec ses serviteurs. Nous, les chrétiens, on a la chance de pouvoir goûter, le chemin que Dieu nous montre, que Dieu nous donne. Mais en même temps, il ne faut pas emprisonner, si vous voulez, Dieu pour nous-mêmes. Il ne faut pas voler Dieu aux autres et le tenir seulement pour nous-mêmes. Malheureusement, on tombe parfois dans ce piège de croire, voilà, nous, on a tout, les autres sont damnés. Damnés pourquoi? Quelle garantie on a, nous, que Dieu nous va faire avec nous de la même manière comme est-ce qu'il a fait avec les serviteurs qui n'ont pas répondu à l'invitation du Seigneur et qu'il est allé chercher des autres qui n'étaient pas invités, mais quand même qu'il a invité à la table de la noce, de noces de son fils. Donc attention, le baptême ne nous sauve pas automatiquement. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement pour des hommes qui sont soit dit orthodoxes et qui, par leur appartenance à l'orthodoxie, leur appartenance à l'orthodoxie, c'est automatiquement une chose qui sauve. Non, c'est faux. L'orthodoxie, c'est une chose qui se travaille. La chose d'être orthodoxe, c'est une chose qui nous mène devant un défi. Et je dis ça au-delà de toutes les choses, je ne sais pas, des coutumes, des choses qu'on a héritées, je ne sais pas d'où. Non, l'orthodoxie, c'est vivre conformément aux lois de Dieu. Et la première loi de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est-à-dire l'amour de celui qui, même si à notre avis, celui n'a pas été invité par le Seigneur aux noces. Mais attention, parce qu'on n'est pas les seuls invités aux noces. Je ne voudrais pas trop insister sur ça parce que j'avais un autre plan pour mon homélie d'aujourd'hui. Je vous conseille de lire cet évangile, de la relire et de le lire le reste de votre vie. Elle se trouve dans l'évangile qui a été écrit par Saint Matthieu. Et je vais vous dire tout de suite le chapitre. C'est le chapitre 22. Tout le chapitre 22 de l'évangile selon Saint Matthieu. Je vous conseille de le lire et de méditer. Qu'est-ce qu'il veut dire Jésus par cette parabole? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que c'est ça? Allez donc dans les carrefours et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. Les mauvais comme les bons. Hein? Bon. Pour revenir à l'homélie de la semaine dernière, j'ai commencé à vous présenter un peu la liturgie. Qu'est-ce qui se passe à la liturgie? Et j'ai commencé par vous expliquer petit à petit la première chose qu'on fait dans la liturgie, la grande ecténie, où je vous ai expliqué que voilà, il y a plusieurs demandes qui couvrent presque tous les besoins d'un être humain. On prie pour la paix, on prie pour un climat tempéré, on prie pour les voyageurs, pour qu'on soit gardé de tout mal. Mais j'ai oublié à vous dire qu'avant de commencer la liturgie, le prêtre il dit une prière qui est très importante et que vous devez même l'apprendre par cœur, si vous voulez. Ça s'appelle Roi Céleste, Imperator Ceresque en roumain. Pourquoi est-ce qu'on invoque le Saint-Esprit avant chaque liturgie? Parce que toutes les choses dans l'orthodoxie sont autour de Dieu qui est la Trinité, qui est un Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais surtout dans la liturgie, l'action du Saint-Esprit est plus concrète, si vous voulez. Quand le prêtre prie devant l'autel, il dit au moment culminant de la liturgie, « Et maintenant t'envoie ton Esprit Saint sur les dons qui sont ici présentés et sur nous tous », notre prière est adressée au Saint-Esprit, voilà. Et beaucoup de prières dans la liturgie sont adressées aux troisième personnes de la Trinité. Je vais vous lire la prière tout d'abord. « Roi céleste, défenseur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de toute bien et dispensateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. » La théologie orthodoxe insiste beaucoup sur l'action de la grâce du Saint-Esprit. On ne peut pas expliquer de manière intellectuelle c'est quoi la grâce de Dieu. Mais si vous voulez une image, c'est l'action que Dieu fait, que Dieu a avec chacun d'entre nous. Être orthodoxe, c'est surtout de ne pas commencer à chercher d'une manière raisonnée, d'une manière intellectuelle, les mystères de la foi. Je ne dis pas de ne pas chercher, mais je dis de ne pas chercher d'une manière intellectuelle. Quand je reviens à l'image que j'aime beaucoup, quand vous aimez, vous ne cherchez pas trop les motifs de quoi est-ce que vous aimez. Quand vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, même si la raison elle n'est pas très sûre, c'est l'âme qui a ses raisons, qui dépasse la raison humaine. Essayez de mettre cette image dans le cadre de l'Église. Et je voudrais venir un peu pour voir que l'orthodoxie n'est pas une chose qui peut être comprise par la sagesse humaine. Voilà ce qu'il dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans une lettre qui se trouve dans le Nouveau Testament. Moi-même, dit l'apôtre Paul, quand je suis venu chez vous, frères, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Moi, j'ai été devant vous faible, craintif et tout tremblant. Ma parole et ma prédication n'avaient rien de discours persuasif de la sagesse, mais elle était une démonstration faite par la puissance de l'Esprit. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà pourquoi le prêtre, il prie le Saint-Esprit, pour que toutes nos prières ne soient pas fondées sur la sagesse des hommes, ne soient pas fondées sur notre désir, sur notre égoïsme, sur notre nature humaine, pour que tout ce qu'on fait dans l'Église soit fondé sur la puissance de Dieu. Pourtant, il y a une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes, sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde, vouée à la destruction. Nous enseignons la sagesse de Dieu, mystérieuse, que Dieu, avant les siècles, avait d'avance destiné à notre gloire. Et l'apôtre Paul continue. Aucun des princes de ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. En effet, c'est à nous que Dieu a révélé ce mystère par l'Esprit Saint. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et nous, N'en parlons pas dans le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais dans celui qu'enseigne l'esprit, exprimant ce qui est spirituel en termes spirituels. L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut le connaître car c'est spirituellement qu'on peut juger la sagesse de Dieu. Pour moi, frère, dit Paul, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. C'est du lait que je vous ai fait boire, non de la nourriture solide, vous ne l'auriez pas supporté. On peut continuer parce que le deuxième chapitre de 1er Épître aux Corinthiens continue beaucoup, insiste beaucoup sur cette différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Et un conseil, si je me permets de vous donner un conseil, toujours en commencer vos jours, vos prières, vos travails, commencez aussi par une prière vers l'Esprit Saint. Essayez d'apprendre par cœur cette prière. Voix céleste, défenseur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout. Voilà quelle joie de savoir que l'Esprit Saint, notre Dieu, la troisième personne de la Sainte Trinité, il remplit tout. Il est partout présent. Il est trésor de toute bien et dispensateur de vie. Et on lui demande de venir et de demeurer en nous, et de purifier nous de toute souillure, et de sauver nos âmes, lui qui est bonté. Je m'arrête ici, donc, pour faire un résumé de toute l'homélie d'aujourd'hui. Tout d'abord, je vous conseille de lire le chapitre 22 de l'Évangile de Saint Matthieu, et de méditer. Après, deuxièmement, je vous conseille d'essayer d'apprendre par cœur cette prière et de la dire dans tous les moments de votre vie. Troisièmement, essayez de penser qu'est-ce qu'on peut apprendre dans l'Église. Comment est-ce qu'on vient chercher Dieu dans l'Église? D'une manière intellectuelle, après la sagesse de ce monde, on va devenir des fous. Je vous assure que si on vient chercher Dieu avec une manière humaine, d'après les coutumes d'une sagesse humaine, on va devenir fou. On ne va rien comprendre de ce qui se passe dans l'Église, et on va devenir fou. Non, essayez de trouver des réponses toujours dans la prière, dans la prière, dans la prière. Laissez parfois à côté votre raison. Laissez à côté votre recherche intellectuelle. Laissez-les à côté une période, et jetez-vous un peu d'une manière, cherchez une raison spirituelle, si vous voulez, une autre manière de penser, qui a été la manière de tous les chrétiens, qui est notre manière de penser. Demandez au Saint-Esprit de vous donner cette manière de comprendre les mystères de l'Église. C'est quoi le mystère de l'Église? Il n'y a pas de choses cachées. Il n'y a pas des choses cachées, mais il faut pénétrer, il faut comprendre. C'est quoi le mystère de l'Église? Voilà c'est quoi le mystère de l'Église. Le Christ, il est venu pour ressusciter, pour donner au monde la vie que le monde a perdue par le péché. Le Christ, il est venu pour guérir la nature humaine. Il est venu pour guérir le péché. C'est ça. Vous avez pas des autres choses à apprendre dans l'orthodoxie. C'est toujours en tension entre la vie et la mort, entre chercher la vie et aller sur la voie qui mène à la mort, à la ruine. C'est toujours un parallélisme. C'est ça qu'il faut faire dans l'orthodoxie. C'est ça qu'il faut apprendre aux autres. C'est quoi l'orthodoxie? Il n'y a pas des autres choses dans l'orthodoxie. C'est ça, on choisit la vie ou la mort. C'est une chose radicale. C'est une chose qui nous touche, chacun d'entre nous. C'est pas une blague. L'Église, c'est pas une blague. C'est pas une chose, c'est pas une coutume qu'on a héritée de je ne sais pas qui, de prêtre ou de notre pays. Non, ce n'est pas une blague, l'Église. L'Église, c'est un choix. Et dans l'Église, il y a des choses très, très chirurgicales, si vous voulez. Dans la confession, dans la, dans la confession des péchés, dans beaucoup de choses où on trouve l'équilibre, on retrouve notre naturel, vraiment naturel, si vous voulez, la sagesse qui est la sagesse de Dieu. Que Dieu nous donne cette intelligence spirituelle, qu'on trouve la sagesse de Dieu et qu'on puisse comprendre que l'Église doit être un hôpital pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas un lieu où on cherche des explications, comment est-ce que la panne sera transformée dans le corps de Christ. Non, on prend la réalité comme ça, mais on sait que cette réalité, le corps de Christ nous guérit, nous sanctifie. On ne comprend pas comment, pourquoi l'eau bénite avec laquelle on vient chez vous, dans vos maisons, pourquoi avec cette eau bénie, voilà, il y a des choses qui se changent dans nos maisons. Pourquoi? Voilà, parce que c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas rien à faire de schéma, de dire, voilà, c'est A plus B qui a donné l'eau bénie. Ce n'est pas ça, non. C'est la grâce de Dieu qui travaille. C'est la grâce de Dieu qui imprime beaucoup de choses. Voilà combien de choses matérielles on utilise dans l'Église pour montrer que, voilà, la grâce de Dieu imprime la création et peut imprimer chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse et je vous souhaite la liturgie d'aujourd'hui, bonne prière pour l'Esprit Saint. Et je vous demande d'être attentive quand le prêtre va dire au moment culminant, après que la chorale chante « Petine te laudem, petine te binecuvântem », le prêtre va commencer une prière très importante où à un moment donné il va dire « Et maintenant envoie ton Esprit Saint sur nous tous ». Attention, sur nous tous et sur ces dons qui sont ici présentés. Et tout le monde, toute l'assemblée répond « Amin ». Et fait de ce pain le précieux corps de ton Christ et de ce sang le précieux, le précieux corps de ce sang de ton Christ. Et toute l'assemblée répond « Amin ». Pourquoi? Pour confirmer que la prière pour le Saint-Esprit, c'est une prière commune. Je vais finir l'homélie en vous lisant encore une fois cette prière. Roi céleste, défenseur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, trésor de tout bien et dispensateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Que Dieu nous bénisse.